Et puis là, il tend la main vers lui et puis il dit « Je suis ton père.
Mmh, » Passe-moi la crème.
Vous reprendrez bien un peu de science-fiction à la plage. Je suis ton père, quoi. C'est un truc de dingue, quand même.
T'étales bien, hein.
Vous reprendrez bien un peu de science-fiction à la plage. De nouveau cette année, l'émission de SF de Radio Évasion revêt son plus beau maillot de bain, étale bien la crème solaire et s'allonge sur sa serviette de plage pour vous présenter des émissions estivales. Petit changement toutefois, pas d'émission collégiale, mais une série d'entretiens en tête-à-tête dans une atmosphère qui se veut plus intimiste. Chaque semaine, mes invités, musiciens, auteurs ou simples passionnés de science-fiction, viendront présenter des œuvres qui les ont marquées et qui peut-être pourraient vous intéresser, histoire d'étoffer votre liste de lecture et de visionnage pour les jours qui arrivent. Alors, installez-vous confortablement dans votre transat, chaise longue ou hamac, laissez le soleil aller votre épiderme et savourez les émissions de « Vous reprendrez bien un peu de science-fiction à la plage ». Et donc, aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes membre de l'association La 29e Dimension, qui est basée à Quimper, qui est dirigée par notre ami Guillaume Volant.
Oui, tout à fait. Comme toi-même, du reste.
Oui. Et donc, Jean-Pierre, vous avez bossé déjà au départ dans la banque.
Oui.
Pendant quelques années. Après, vous avez été marchand de journaux.
Tout à fait, oui.
Et presse classique ou plus aussi littérature?
Alors donc c'était une enseigne qui appartenait à ce qu'on appelait les nouvelles messageries de la presse parisienne à l'époque, donc la grande coopérative de presse française. Mmh. Une enseigne qui faisait évidemment beaucoup de essentiellement les journaux, plus une petite part librairie qu'on pouvait agrémenter, augmenter, diminuer comme on voulait, quoi. Mais avant tout, j'étais marchand de journaux.
D'accord.
Je diffusais la presse régionale et nationale.
Bien. Après, vous avez fait quelques... Vous avez bougé un peu à gauche à droite. Entre autres, vous êtes allé sur l'île de Paros.
Oui, j'y ai passé 2 ans de ma vie en faisant un commerce avec ma compagne, qui était un commerce de vêtements, on va dire.
D'accord.
Voilà, et donc... Malheureusement, la Grèce, subissant à cette époque-là les effets négatifs de son inconsistance économique et des investissements lourds des Jeux Olympiques, je suis obligé de repartir en France.
Voilà.
Voilà.
Et pour retourner, de retour dans une boutique de presse.
Oui, une boutique du groupe Hachette, les Relais H, devenus les relais dans les gares et les hôpitaux parisiens.
Oui, bien connu des voyageurs en train.
Oui, tout à fait.
Et donc, Jean-Pierre, vous vouliez nous parler d'une pièce, entre autres, qui s'appelle Mars 2037.
Oui, Mars 2037, oui, c'est une pièce auquel j'ai eu le plaisir d'assister la semaine dernière, ou il y a 10 jours, je ne sais plus exactement, avec quelques membres de notre 29e dimension.
Tout à fait.
Dont un voisin illustre à ma droite. Et voilà, donc le théâtre en science-fiction est quelque chose qui se fait assez rare et dont je n'avais jamais eu connaissance de ma vie. Jamais vu une pièce non plus, j'ai très peu entendu parler d'adaptation de romans célèbres au théâtre. Donc on a eu l'occasion d'avoir une pièce qui était donc une création nommée Mars 2037. Et donc, nous étions très curieux de voir ce qu'un réalisateur de théâtre pouvait en faire.
Voilà. Et je précise, pour être bien clair, que c'est une comédie musicale de Nicolas Duclou et de Pierre Guillois.
Voilà, c'est ça. C'est Ça rappelle bien des noms, moi, je voyais.
Bah, j'ai les notes sous les yeux.
Donc voilà, pour résumer la situation, donc, c'est l'histoire d'un milliardaire qui décide de dépenser tout son pognon pour partir vers un voyage unique vers Mars. Mm-hmm. Accompagné de trois astronautes, cosmonautes, ou spationautes, comme vous voudrez, plutôt spationautes maintenant, d'une poule et d'un robot.
Oui.
Et qui crée effectivement le grand désarroi de sa fille unique et héritière, qui évidemment on voit toute la fortune lui passer sous le nez.
Tout à fait.
Voilà. Et donc, on pourra y voir effectivement l'apparition d'un personnage qui pourrait ressembler à un monsieur célèbre de nos jours, Elon Musk.
Ah, le parallèle est saisissant, oui.
Oui, c'est tout à fait saisissant. Donc, après, nous avons donc. Différents plans de ce voyage vers Mars, le départ, le voyage entre Terre et Mars, mmh. et le court atterrissage à la fin du spectacle.
Tout à fait.
Voilà. Et donc, ce qui est tout à fait sympathique dans cette pièce, donc je rappelle, oui, il y a beaucoup de chansons, donc une comédie musicale. Mmh. C'est que nous avons en permanence des personnages, certes un peu parfois caricaturales, mais très, 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 très puissants, qui donnent une image assez, assez, comment dire, assez, on va dire, quelque chose qui nous fait voyager un petit peu, et qui donc, à partir de leur ressenti, nous essayons de voir l'émerveillement qu'ils peuvent en tirer. Et malheureusement, ils auront un petit peu un voyage mouvementé, parce que tout ne se passe pas toujours à la perfection.
Oui,
voilà, nous aurons certaines pluies d'astéroïdes, paraît-il que ce sont des diamants qui venant de Neptune, qui percent la coque de leur vaisseau et qui entraînent quelques bouleversements irrémédiables, puisqu'il faudra qu'ils dorment plus longtemps pour éviter de consommer d'oxygène.
Voilà.
Voilà. Et d'où quelques scènes de ces scènes de cauchemar donc vont nous accompagner tout au long de ce voyage jusqu'à l'atterrissage. Je ne sais plus comment on dit. Hein.
Quand c'est comme ça, moi je dis qu'on se pose sur Mars. Voilà.
On se pose sur Mars.
Voilà.
Et ça s'appelle l'amarsage exactement. Excuse-moi. Sur Mars. Oui, sur Terre, pendant ce temps-là, la fille de notre Elon Musk d'opérette fait des pieds et des mains pour essayer de récupérer sa fortune. Mmh. dont elle juge que son père a utilisé à son désavantage, effectivement. Elle va donc même carrément essayer de monter une opération d'abordage du vaisseau en cours de voyage vers Mars en utilisant des techniques plus modernes plus rapides. De voyage.
C'est ça.
Bon, il faut bien dire que elle n'arrivera pas trop à son but. Notre spectacle donc suit son cours, mm-hmm. Entrecoupé donc des dialogues de nos personnages et des chansons qui affairent à la pièce. Mm-hmm. Et donc là, c'est là que nous avons l'émerveillement d'avoir une technique théâtrale assez spécifique où ouais. nous pouvons donc assister à de la comédie musicale en apesanteur.
Tout à fait.
Je ne parodierai pas la chanson célèbre, mais effectivement, c'est un tour de force de voir les acteurs capables de passer de leur rôle d'acteur classique un rôle de chanteur de comédie musicale en apesanteur. Certains chantent à tête à l'envers, d'autres se déplacent en apesanteur de droite à gauche. Il faut dire que la pièce a mis en œuvre des moyens techniques très importants, puisque nous avons donc des technologies et une sorte d'intérieur d'un niveau d'un vaisseau spatial complètement en apesanteur. Les personnages évoluent en apesanteur.
Tout à fait.
Je pense à l'aide de beaucoup de techniciens qui, derrière, doivent effectivement certainement manier poulies et cordes à droite et à gauche.
Tout à fait.
Là, je n'en sais rien, nous n'avons pas vu, mais on s'en doute, puisque je crois qu'il y avait 6 acteurs sur la pièce, ou 6 ou 7 acteurs, et pour au moins 20
techniciens. 20 techniciens, oui. Ouais.
Voilà, à peu près. Donc c'est un tour de force, c'est surtout ça qui m'a émerveillé, parce que ça, j'avais jamais vu. Alors bon, si on ne va pas dire que le texte et le récit soit bouleversant, mais il est sûr que c'était déjà important de pouvoir nous rendre en théâtre l'aperçu de ce que pourrait être un voyage vers Mars.
Tout à fait.
Voilà. C'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette pièce, c'est que voilà, à suite à donner à une autre adaptation d'une œuvre de SF.
Oui.
Pourquoi pas, on verra, je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres des émules, peut-être qu'il y a-t-il déjà d'autres pièces qui ont été, d'autres œuvres qui ont été faites en théâtre, je ne sais pas, je n'ai aucune idée.
Ah, on ne sait jamais.
On ne sait jamais. Oui. Donc voilà, nous étions quelques membres de la 29e dimension,
tout à fait,
avoir assisté à cette première.
Et on était sortis quand même majoritairement et même unanimement émerveillé, peut-être pas, mais très satisfait du rendu.
Très, très, très impressionné, oui.
Ouais, ouais.
C'est vrai. Ouais. Surtout que nous avions eu le droit à une petite conférence d'avant-pièce de la part du
metteur en scène. Oui.
Du metteur en scène. Qui nous avait expliqué quelques éléments de son travail.
Oui. Très instructif.
Très instructif, ouais. Effectivement. Nous avions du reste parmi nous une petite dame d'un autre collectif qui disait, mais qui n'arrêtait pas de dire, mais pourquoi va-t-on sur Mars ? Qu'est-ce que vous faites pas sur Mars ? On a beaucoup rigolé juste avant la présentation et la vue de la pièce de théâtre.
Oui.
Voilà, ça c'était donc mon petit coup, dernier petit coup de cœur, parce que c'était fort original par rapport à ce que je peux lire ou voir sur écran au cinéma, donc c'est important, voilà.
Tout à fait.
Voilà.
Et vous vouliez aussi parler d'une nouvelle d'Arnaud Ponty.
Oui, alors j'avais entamé quelques jours avant, et c'est un peu par hasard, une nouvelle d'une petite maison d'édition qui s'appelle 1115, qui édite des auteurs français de science-fiction. 1115, c'est le format de bouquins. Ce sont des bouquins que vous pouvez mettre dans votre petit sac pour lire dans le métro ou pendant le métro, dans la TER, comme vous voulez, tout ce que vous voulez. Et ce sont des nouvelles qui sont écrites par des jeunes auteurs et anciens auteurs français de science-fiction. La maison d'édition s'appelle l'Agence de voyage littéraire. C'est son nom. Voilà, entre autres, donc format 11-15, puisque c'est ça leur nom. Et donc là, il existe un monsieur qui s'appelle Arnaud Pontier, qui est un vieux de la vieille, il est dans 57, donc déjà un écrivain confirmé un petit peu chez nous en science-fiction, mais il ne fait pas que ça, il a beaucoup travaillé dans d'autres domaines de la littérature, et est aussi maintenant quelqu'un qui travaille dans les arts internes chinois, qui est un guide de méditation sur certains arts chinois.
D'accord.
Donc c'est entre autres d'être un écrivain donc de notre genre. Monsieur que j'ai rencontré au dernier festival Ouest Hurlant à Rennes de science-fiction, donc très sympathique. J'avais acheté cette nouvelle sur Mars à l'époque sans envisager que nous allions avoir une pièce de théâtre qui en parlerait. Mmh. Voilà, donc là, donc c'est une courte nouvelle de 70 pages quand même, qui va nous raconter le journal de la première mission humaine qui va atterrir sur Mars. Bon, évidemment, aller sur Mars nécessite une organisation technique, et donc il va reprendre d'une façon très très réaliste la possibilité que nous avons maintenant d'aller sur Mars en tenant compte de tout ce qui est d'un environnement aussi inexploré. Et il va donc nous raconter le journal de bord d'un spationaute français qui va être le premier du reste à faire mettre le pied sur Mars.
D'accord.
Et ensuite poser les jalons de bases successives martiennes qui devrait permettre à d'autres missions qui partent déjà puisqu'il faut savoir qu'il faut 6 ou 7 mois pour gagner Mars.
Oui, oui.
Il faut des fenêtres de tir bien précises qui tiennent compte de l'alignement entre la Terre, Mars et le Soleil,
oui.
Et qu'on peut y aller que tous les 2 ans. Et donc d'autres missions suivent. Et donc quand ils arrivent sur la planète Mars, il faut qu'ils construisent, mettent en place donc une structure de base qui va les amener à cheminer sur la planète Mars pour installer à la suite 5-6 bases de façon à ce que les autres missions qui arrivent derrière puissent s'installer successivement à leur place et ainsi de suite commencer une certaine, on va dire, colonisation scientifique de Mars qui devrait leur permettre aussi de fabriquer de l'énergie parce qu'il faut, il faut retourner sur Terre et qu'ils n'ont pas trouvé le moyen de retourner sur Terre une fois que nous atterririons sur nous amorcerions. Et donc cette histoire et donc le journal de barre de ce personnage à la première personne qui entre donc qui situe l'action vers 2025-2026 ou même 2027 je crois et donc jusqu'à un retour sur Terre mais donc pendant ce temps-là nous assistons à son à ses pérégrinations avec ses collègues de difficultés de, et les surprises qu'il rencontre sur Mars. Effectivement, c'est un hommage très appuyé à Mars et l'écrivain va parsemer son œuvre de tout un tas d'hommages appuyés aux œuvres littéraires et cinématographiques qui ont fait l'objet de beaucoup de rêves, de beaucoup d'écrivains de toutes époques.
D'accord.
Voilà, il faut savoir quand même que sur Mars, pour donner quelques informations supplémentaires à nos amis qui ne connaîtraient pas forcément ce en quoi on s'avance quand on va sur Mars, c'est une planète qui est quand même située entre à plus de 200 millions de kilomètres du Soleil, entre 56 et 400 kilomètres de la Terre, 410 millions de kilomètres de la Terre en fonction de la position de la Terre et de Mars et du Soleil. Sa superficie est de un tiers de la Terre, la moitié du diamètre de la Terre, et sa masse représente qu'un dixième de la Terre. Il faut, ses plus gros sommets mesurent 21 km.
Oui, c'est ça qui est impressionnant.
Et son cratère le plus immense est de 2000 km de diamètre.
Oui.
Alors voilà, une année fait presque 2 ans, la journée est équivalente à la nôtre, la pesanteur un tiers de la Terre, et la température moyenne, elle va de moins 10 à... Enfin, les températures vont de moins 10 à moins 130 degrés Celsius. Voilà pour situer un petit peu notre situation que rencontrera un martionaute.
Oui, voilà. C'est pas les meilleures conditions pour.
Voilà, donc c'est et donc donc cette nouvelle fort bien documentée, très réaliste, est plutôt une anticipation qu'une science-fiction, mais bon, on sait que l'anticipation pour moi c'est de la science-fiction.
Tout à fait.
C'est qu'un sous-genre. Et j'ai simplement le regret dans la lecture de ce courte nouvelle d'Arnaud Pontier. C'est que j'ai quand même pensé qu'il aurait pu faire un merveilleux roman, fantastique roman, beaucoup plus, comment dire,
développé,
allongé, évidemment, beaucoup plus avec beaucoup plus de péripéties. Et là, il n'y en a pas beaucoup, et c'est assez réaliste. Mais je regrette seulement que nous avions peut-être l'écrivain qui pouvait nous faire le roman sur Mars pour concurrencer la trilogie fantastique du grand écrivain américain Kim Stanley Robinson.
Tout à fait.
Voilà. Mais il ne l'a pas fait, peut-être y passera-t-il un jour, il viendra-t-il un jour, je ne sais pas.
Peut-être.
J'en attendrai bien cela, et voilà. Donc, malgré tout, je conseille à tout le monde d'aller visiter cette petite maison d'édition 1115, de lire cette nouvelle sur Mars, et même de lire sa dernière nouvelle qui s'appelle Merlin, qui est sur un autre domaine, est une nouvelle assez magnifique.
Très bien.
Voilà, donc, petite pub pour Arnaud Pontier.
Tout à fait. Voilà. Très bien. Ben, merci pour ces conseils et cette revue, cette analyse de la pièce de théâtre.
Eh bien oui, voilà. Écoutez, c'était ici, c'était Papy Sifi qui vous parlait.
Très bien. Ben, on arrive déjà au bout de l'émission. Ça passe très vite.
Voilà.
En tout cas, merci beaucoup Jean-Pierre.
Ben, y a pas de quoi. Je m'excuserai pour tout le monde, parce que j'ai pas forcément la facilité d'élocution à la radio, c'est pas évident pour moi, mais bon, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, j'espère que vous m'auriez compris.
Tout à fait, c'était fort et clair, très compréhensible. Merci beaucoup.
Et ben, y a pas de quoi, et puis voilà, à bientôt, et merci à tout le monde.
Merci, au revoir.
Et merci à toi.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre.